pour la scène. Merci Arnaud pour la présidence. Je vais vous partager un passage dans l'Apocalypse aujourd'hui. J'aimerais juste introduire un petit peu avant tout ce qui sera dit. Je suis très content parce que j'ai entendu plusieurs prières qui étaient en rapport avec le message. J'ai entendu des prières sur le thème du fait qu'on avait besoin de Dieu et qu'il était essentiel dans notre vie. Et j'ai entendu aussi la prière de Véronique qui parlait de repentance, de vouloir changer, de ne pas se laisser aller dans les habitudes et un train-train quotidien. Et c'est exactement le piège que je vais parler en particulier ce matin. Et avant de commencer le message, je vais inviter Jonathan, s'il peut déjà s'approcher. Et il va faire un des couplets, ou je ne sais plus, d'une vidéo qu'il a mis sur Internet. Et en fait, ça va parler particulièrement aux jeunes, mais c'est des pièges dans lesquels, parfois, on peut se laisser avoir. Et c'est important... En fin 2018, si, comme on le dit depuis le début du culte, si on veut commencer une année 2019 en étant consacré à Dieu, c'est important de pouvoir discerner ces pièges, de les voir, pour ensuite pouvoir les mettre de côté et ensuite aller vers la voie que Jésus veut pour nous. Voilà, donc je vais le laisser.
On a fait du christianisme une mode, de l'hypocrisie spirituelle une norme. On n'est pas dans le monde, mais du monde. Notre erreur est énorme. La Bible, oui, c'est intéressant, mais on préfère écouter ce qui est récent. On cherche à ressentir la présence de Dieu, mais pas à savoir ce que Dieu ressent. L'épouse de Christ a de plus en plus d'amants. On a des dons différents, on l'oublie constamment. On veut tous être chantres, ah bon, mais ce ministère n'est même pas dans le Nouveau Testament. On est habile, on n'ouvre plus la Bible, mais on ouvre l'appli pour y marquer like. On veut la renommée, le succès, la monnaie et le plus d'abonnés sur eMarket Live. On veut la prospérité, mais pas être persécuté comme en Chine. Notre foi n'a plus de voix, comme si elle avait une angine. On veut du spectaculaire, on veut du tangible, on veut parler leur langue, mais les angiles n'ont pas besoin d'entendre l'évangile. On a oublié la mission, on a oublié les nations. Les salles sont remplies de chrétiens lors de nos concerts d'évangélisation. On mélange la Bible à notre sauce. Plutôt que sauver, on préfère saucer. On amasse des likes sur les réseaux sociaux au lieu d'amasser des richesses sociaux. Amen.
Donc voilà une petite présentation de pas mal de problèmes qui peuvent... être dans l'église et qui peuvent vraiment être installés par moments et dont on ne se rend même pas compte parce que c'est une habitude. On vit, on a fait 2017, 2016, 2015 et depuis tout ce temps-là, ces habitudes se sont installées insidieusement parfois. Peut-être certaines se sont installées dans nos églises aussi, dans notre église aussi, en particulier à Franconville. On voit peut-être des chrétiens à l'extérieur qui ont ces problèmes-là et c'est vraiment quelque chose qu'on doit chercher à discerner et à remettre en question dans nos vies. On va voir parce que c'est quelque chose qui peut être très grave pour Dieu. Dieu, quand il voit des églises comme ça, ou quand il voit des chrétiens comme ça, qui... vivent juste par habitude, qui seulement se disent chrétiens, mais qui n'ont plus vraiment de relation avec Dieu, ça devient des chrétiens inutiles pour Dieu. Parce que Dieu ne les utilise pas, parce que il lui demande rien. Ils vont même pas le prier pour lui demander quelque chose. Donc Dieu n'agit pas dans leur vie. Et donc ils ne font rien que Dieu a envie qu'ils fassent. Et ces chrétiens-là... pensent savoir presque mieux que Dieu et vivent leur vie parce que ils assoient toutes leurs décisions sur ce qu'ils décident et non pas sur ce que Dieu veut. Et donc, je vous invite à lire dans quelques minutes Apocalypse 3, versets 14 à 22, et nous allons voir l'exemple de l'église de Laodicée. Pendant que vous tournez vos pages, je me permets juste de vous donner un petit peu de contexte. L'église de Laodicée apparaît une autre fois avant d'apparaître dans l'Apocalypse, elle apparaît dans la lettre aux Colossiens. Je vais rapidement lire, pendant que vous êtes en train de finir de trouver Apocalypse, je vais lire Colossiens 4, versets 12 à 13. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage, il dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et ceux de Hiérapolis. Et le verset 16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée, et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. » J'ai lu dès le verset 12, parce que je voulais juste citer le nom d'Épaphras, qui, selon certains, on pense que c'est lui qui a fondé l'église de Laodicée et les deux églises voisines de Colosse et de Hiérapolis. On va voir pourquoi ces trois villes sont importantes tout à l'heure. Et donc ces trois villes sont proches entre elles et visiblement elles avaient des connexions, elles se passaient les lettres des uns et des autres, et Epaphras visiblement faisait un petit peu le tour entre les trois églises. Il faut savoir aussi que Laodicée était une ville très prospère, réputée pour des banques pleines d'or. Apparemment il y a eu un tremblement de terre une fois à Laodicée, et Laodicée s'est permise de refuser l'aide du Sénat romain pour reconstruire la ville parce qu'ils avaient tellement d'or. Elle est réputée aussi pour sa laine, et en particulier la laine noire, et elle faisait beaucoup d'habits, de tapis avec, et elle est réputée pour ses soins en ophtalmologie, qui apparemment était faite par une petite eau qui trouvait un petit peu plus loin dans les terres. Et cette eau, il faisait des collyres avec et il commençait à faire les premiers soins pour les yeux. Vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite. Je vais lire maintenant Apocalypse 3, versets 14 à 22. Je lis dans la version Semeur. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La parole du Seigneur. Je vais prier. Mon Dieu, je te remercie pour ce moment. Je te prie que nous puissions tous retirer quelque chose de ce texte. Tu vois que il peut paraître dur. Parfois, ta justice doit trancher et doit nous amener à changer de comportement quand nous dévions. Et nous devons accepter ce fait de revenir à toi et d'être repris par toi. Parce que tu ne veux qu'aucun se perde. Et tu fais tout pour tout pour faire revenir chacune des personnes à toi. Et je te prie, Dieu, que chacune des personnes ce matin puisse grandir avec quelque chose de ce texte, et que ceux qui ont besoin d'être repris peut-être puissent aussi se laisser reprendre et grandir avec toi et accepter de progresser plus vers toi et de s'attacher plus à toi et de plus s'attacher à ces choses du monde qui nous pervertissent et qui nous font oublier l'essentiel. Je te remets tout ce que je vais dire, que tout ce que je vais dire puisse être conduit par toi et que tu puisses diriger ma langue pour que je ne puisse pas dire quelque chose qui soit contraire à la Bible et que tu puisses parler au cœur de chacun d'entre nous dans cette salle, et moi le premier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais relire les versets 14 à 17. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit : Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, ah si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis : Je suis riche, j'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable et que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc comme vous avez vu dans ces premiers versets, le premier, même au verset 14, Jésus se présente comme il l'a fait dans chacune des lettres qui sont avant. Il y a 7 lettres en tout dans les chapitres 2 et 3. Il le fait d'une manière particulière à chaque fois pour préparer ce qu'il va dire ensuite. Il se présente comme le témoin, digne de foi et véridique, comme étant Amen et celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Par cette présentation de qui il est, Jésus assure qu'il dit la vérité et qu'il voit tout ce qui se passe au fond des cœurs et qu'il ne se laisse pas avoir par les faux-semblants. Il ne dit pas quelque chose formé sur des apparences. Jésus rappelle également qu'il est à l'origine de toute chose, rappelle qu'il a déjà fait à l'église de Laodicée par l'intermédiaire de la lettre envoyée aux Colossiens. Je vais lire rapidement Colossiens 2, versets 18 à 19. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision et ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées humaines. J'ai lu le contexte et je vais lire le verset 19 juste avant. Je rappelle bien que ce rappel de Colossiens, c'était pour dire que Jésus est à l'origine de toute chose. Je crois que je suis peut-être allé un tout petit peu vite, c'est pour ça que je le rappelais. Il refuse, verset 19, de s'attacher au Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments, c'est-à-dire l'Église. Ok. Donc vous avez vu que dès le verset 18, il y avait des gens déjà dans l'entourage de l'Église de Colosse qui mettaient plus vraiment Jésus à l'origine de toute chose ou qui mettaient les anges avant. Enfin, on pourrait débattre sur quel était le problème en particulier, c'est pas ça l'important, mais en tout cas, il refuse de s'attacher au Christ qui est le chef et la tête de l'Église. Il refusait de mettre Jésus en fondement. Et visiblement, ce problème de Laodicée, ce problème à Colosse, dans l'entourage des Colossiens, est venu aussi à Laodicée et a pris une grosse part. Donc Jésus dit la vérité et voit le plus profond de nos cœurs. Ce rappel doit nous servir à nous rendre attentifs à ce qui sera dit par la suite. Parce qu'il dit ce qui voit au plus profond de nos cœurs. Jésus est également à l'origine de toute chose, et ça on va revoir plus tard. Pourquoi c'est important ? Donc ensuite, je vais relire les versets 15 et 16. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc là, il commence en évoquant un problème de fond dans l'église de Laodicée. Ces chrétiens, visiblement, ont une foi tiède, qui n'est ni froide ni chaude. Selon le verset 14, une foi froide est bonne. Je relis la fin. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc ça veut dire que c'est un peu la signification de froid et bouillant est un peu plus compliquée que bouillant, zélé pour Dieu, froid sans Dieu et tiède à moitié. Enfin, je connais Dieu. C'est un peu plus compliqué que ça. Cette image devait être très claire pour les habitants de Laodicée et les chrétiens de Laodicée à l'époque. Et ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Et c'est là où le contexte que je vous avais dit avec les trois villes va avoir son importance. La ville qui était à côté de Laodicée, Hierapolis, était à l'époque connue pour les bienfaits thérapeutiques de ses sources chaudes. Elles étaient, on dit, guérissantes. Ou en tout cas, elles faisaient du bien, hein. Peut-être pour les articulations, les rhumatismes, je ne sais pas. Et Colosse était connue pour ses eaux froides qui étaient pures, rafraîchissantes. Et l'église de Laodicée était connue en particulier, il y avait la réputation d'avoir des eaux tièdes. Et on a retrouvé une source aujourd'hui qui est proche de ce qu'on pense être la ville de Laodicée. Et cette source est effectivement tiède, elle passe par des canaux intérieurs, et en fait l'eau est tiède. Et elle avait la réputation de donner des nausées. Là on comprend mieux tout le contexte. Et le problème va être précisé ensuite au verset 17. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Jésus, quand il voit l'église de Laodicée, il a la nausée, comme s'il buvait de l'eau tiède, et il a envie de les vomir de sa bouche. Le verset 17 dit, « Tu dis, hein, l'église de Laodicée, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Cette église, visiblement, n'avait pas besoin de Jésus. « Je n'ai besoin de rien », comme ils disent au verset 17. Cette église était visiblement trop prospère, elle était riche. Je ne sais pas si ça fait seulement référence à l'argent ou si ça fait aussi référence à tous les services, à tout ce qu'elle pouvait faire autour, je ne sais pas. Et on peut imaginer un beau bâtiment avec un matériel parfait à l'intérieur. S'ils étaient aujourd'hui, on pourrait imaginer un matériel de sono nickel avec un beau nouveau piano à queue, une belle batterie, enfin tout ce qu'on veut. Et même peut-être qu'ils donnaient aux pauvres par tradition. Et c'est ce genre de belle église des fois qui peut donner envie. Mais cette église, toute belle, et toute riche qu'elle était, elle n'avait pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, ça peut vouloir dire qu'ils ne priaient pas Dieu quand ils avaient besoin d'éclaircissement pour faire tel ou tel ministère, pour nommer telle ou telle personne responsable de tel ministère, pour présider, pour préparer le culte. Enfin, ça peut être plein de choses. Parce que c'est dans la prière qu'on entre dans la dépendance à Dieu. Il ne faisait aussi peut-être pas de recherche de la parole pour avoir les réponses de Dieu, pour avoir la conduite que Dieu veut pour leur Église. Peut-être que quand ils cherchaient une réponse sur comment gérer tel ou tel problème, ils n'ouvraient peut-être même pas la Bible. Donc dans toutes les choses qui étaient organisées et qui étaient accomplies par l'Église, ils ne cherchaient aucune direction de Dieu. Et Jésus, le témoin digne et véridique, digne de foi et véridique, voit cette réalité profonde dans les cœurs et rappelle à ces chrétiens qu'ils ne sont rien sans Dieu. Et on a beau paraître riche intérieurement, nous sommes, même nous, hein, nous sommes misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Si nous le réalisons aujourd'hui, nous savons que, du fait de notre condition humaine, nous savons que nous avons besoin de Dieu. Mais cette Église l'avait même oublié. Avait même oublié qu'ils avaient besoin de Dieu. Avait oublié leur condition humaine. Le confort dans lequel peut parfois être notre Église ne doit pas nous faire oublier que nous sommes rien. Et nous sommes misérables sans Dieu. Nous avons besoin de lui et nous dépendons totalement de lui. Je vais passer aux deux versets suivants, versets 18 et 19. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. C'est... Quand on lit ces versets, on pourrait peut-être trouver ça un petit peu dur, mais moi je trouve que c'est une grâce de Dieu, parce qu'il donne une solution à cette Église qui s'était éloignée de lui, qui était venue jusqu'à lui, et dans sa grâce, il leur donne un moyen de retourner à lui. Il leur dit tout d'abord d'acheter de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour se couvrir de leur nudité et un collier pour soigner leurs yeux et voir clair. On va expliquer aussi ces images et peut-être que certains ont déjà fait les parallèles avec ce que j'avais introduit. L'or purifié au feu est quelque chose de plus important que l'or qu'ils avaient dans leur banque à l'époque. Et on va lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La purification au feu est une image un petit peu des épreuves qu'on peut vivre, qui nous purifie notre foi de tout ce qu'on prend, ce qu'on pense avoir comme indépendance par rapport à Dieu. Et ces épreuves-là nous font réaliser que nous sommes dépendants d'ici de ça. Nous avons besoin de Dieu pour ça. Et nous nous en remettons à lui et ça fait grandir notre foi en Dieu. Et donc, cet or purifié au feu doit nous purifier de nos mauvaises habitudes de notre chair et de notre indépendance, comme je disais, de Dieu. Les vêtements blancs sont la marque de la pureté. Ils sont donnés à ceux qui sont restés fidèles dans l'église de Sardes, au début du chapitre 3. Jésus nous rend purs grâce au pardon des péchés. Il nous permet de plus éprouver la honte de notre nudité devant notre condition de pécheur. Et il nous revêt de vêtements blancs, purs, pour que nous puissions paraître purs. Le collyre, pour soigner les yeux, qui sont visiblement malades, doit leur permettre de voir clair. Jésus leur demande de guérir et de renouveler leur perception, leur vision de Dieu et leur vision de leur propre condition. Ils doivent se voir comme ils sont réellement et pas à travers un écran de fumée. Ils doivent réaliser combien ils ont besoin de Dieu et d'une vision conduite par le Saint-Esprit. Si nous tombons dans la tiédeur par rapport à notre foi, il nous faut purifier notre foi des mauvais réflexes qui s'y sont installés. Par exemple, je reprenais l'exemple de l'église de Laodicée, ne plus dépendre de l'argent. Il faut se repentir devant Dieu et rechercher la pureté. Demander pardon à Dieu de notre comportement face à l'argent et rechercher une gestion saine de l'argent. Et enfin, il faut renouveler notre manière de penser et de vivre notre foi avec l'aide du Saint-Esprit. Je relis, il faut renouveler notre manière de penser et de vivre notre foi avec l'aide du Saint-Esprit. Et pour reprendre ce parallèle concret avec l'argent, on peut en prendre plein d'autres. Hein. Chercher à mieux comprendre comment Dieu voudrait qu'on gère notre argent. Et j'ai précisé au début de la deuxième partie, ce côté amour que Dieu a, et on le voit en particulier au verset 19. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. C'est un témoignage d'amour que Dieu nous fait quand il nous reprend. Il nous corrige. Acceptons cela de lui et changeons et tendons plus vers lui. Jésus continue ses conseils pour sortir du piège de l'indépendance par rapport à Dieu, dans lequel étaient tombés les chrétiens de Laodicée, en insistant, en évoquant trois autres points. Au verset 19, je l'ai déjà lu. Le verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Après nous avoir renouvelé, après nous avoir repris, Dieu veut avoir une communion avec nous. Une communion intime. Le repas, en particulier à cette époque, symbolisait ce moment de joie, de fête et d'intimité qu'on pouvait profiter avec quelqu'un. Et Jésus cherche, avec chacun des chrétiens qui se sont éloignés, qui sont tombés dans cette tiédeur et qui n'ont plus de relation avec lui, à revenir dans leur cœur. Il frappe à la porte de leur cœur pour rentrer et pouvoir festoyer ensemble et vivre une relation nouvelle ensemble. Et il fait cette demande aussi à chacun qui est éloigné de Dieu, ou même qui ne connaît pas Dieu, à l'inviter dans le cœur, dans son cœur. Le verset 21, « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. » Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Et Jésus, comme il l'a fait dans chaque lettre, donne une espérance à ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, qui ont accepté d'avoir cette relation intime avec lui et qui veulent vivre une relation intense et forte avec lui. Jésus promet au vainqueur de régner avec lui pour l'éternité. Vous imaginez ce règne éternel avec Dieu, dans la joie, dans l'amour. J'en dirai pas plus parce que je me tromperais tellement ça va être au-delà de tous les mots que je pourrais dire. Et au verset 22, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous rappelle d'être attentif à ce qui a été dit dans ce passage et de faire vraiment attention à la tiédeur qui peut nous arriver à chacun d'entre nous. C'est un vrai mal qui peut nous détruire et qui peut même dégoûter Dieu. Jésus cherche à reprendre cette relation rompue parce que ces chrétiens ne pensaient plus avoir besoin de lui. Il commence par leur montrer avec amour ce qu'il ne va pas en les corrigeant, puis il restaure cette relation avec eux. Il continue en leur rappelant sa promesse du règne éternel et du bonheur qu'ils auront avec lui. Et comme le dit le verset 22, ne pas prendre ça à la légère, faire attention à tout cela. Le confort que nous pouvons avoir en Occident par rapport aux églises persécutées en Orient, par rapport à la prospérité de notre pays en comparaison avec certains pays pauvres de ce monde, peuvent nous faire oublier que nous avons besoin de Dieu. Et cet oubli peut même arriver à l'intérieur de l'Église, comme dans cette Église de Laodicée. Nous devons être vigilants à constamment renouveler notre besoin, notre envie, notre recherche de Dieu, et nous appuyer toujours plus sur lui. Si cette tiédeur nous arrive, nous avons une solution. Déjà, il faut savoir que Dieu connaît nos œuvres, et que même cela, si cela lui déplaît, il nous reprend, il nous corrige dans son amour. Laissons-nous corriger par lui. Nous pouvons acheter de l'or pur auprès de lui, purifié par le feu, une foi renouvelée, saine devant lui. Nous devons venir tels que nous sommes et accepter notre condition misérable, pauvre, aveugle et nue, et demander à Dieu de nous donner des vêtements blancs pour cacher notre honte et nous restaurer. Nous pouvons alors retrouver la vision que donne l'Esprit et rallumer la flamme de notre vie pour Dieu. Rallumer la flamme pour l'évangélisation, pour notre service et nos dons dans l'Église. Mais surtout, faisons cela dans une entière dépendance à Dieu, sans le mettre de côté comme si on n'avait pas besoin de lui. Je vais prier. Dieu, je te remercie pour ces quelques paroles, ces passages qui nous encouragent et qui parfois nous reprennent également. Merci parce que tu nous reprends toujours avec amour. Merci parce que tu nous tends le bras et ton bras n'est jamais trop court pour nous rattraper. Dieu, j'ai pas pu évoquer tous les exemples concrets qu'il y a et peut-être que tu as parlé à chacun et chacune des personnes ici dans son cœur par rapport à certaines choses où peut-être elle était tiède dans sa vie et peut-être qu'elle t'avait mis de côté et que pour cela, elle n'avait pas besoin de toi. Pardonne à mes frères et sœurs, pardonne-moi. Quand je ne te méprends en premier, quand je ne cherche pas à être dépendant de toi. Et restaure-moi dans ta grâce, et restaure chacun d'entre nous. Aide-nous à avancer en 2019 vers ce que tu veux, et aide-nous à te servir de la manière dont dont il t'est agréable, et aide-nous à chercher ta vision, à se laisser remplir par ton esprit, pour accomplir ce que tu veux qu'on accomplisse en 2019. Dieu, aide-nous à pu chercher à réfléchir seulement par nous-mêmes et à seulement dépendre de nous-mêmes, mais à tout remettre entre tes mains. Et à tout utiliser, même notre réflexion et notre intelligence, même pour peut-être une personne dans la salle qui a un discernement particulier, qui a un don de toi, qu'elle puisse utiliser ce discernement et ce don particulier d'intelligence par toi, grâce avec toi et grâce à toi. Dieu, je te remets tout cela dans tes mains et je te prie de bénir toute cette année 2019 et que chacune des personnes puisse être une bénédiction, qui puisse être froid comme cette eau qui apaise, qui fait du bien et qui restaure, qui puisse être chaud, zélé comme cette eau qui est bouillante et qui puisse être guérissante aussi comme ces sources chaudes qui étaient guérissantes. Mon Dieu, mais je te prie vraiment, s'il te plaît, que personne ne soit tiède et tombe dans la tiédeur. Dans le nom de Jésus, amen.